Puisque donc l'histoire du Pérou dans les deux dernières décennies du XXe siècle a été particulièrement marquée par la honte. Je vais vous mettre partager mon écran puisque j'avais mis une photographie pour illustrer tout ça. Donc c'est bon, je crois que vous le voyez bien. Donc on retrouve notamment cette création, donc le mur de la honte, qui a été créé en 2000 à Lima, donc la capitale du Pérou. Et il s'agit d'un tissu tendu sur 15 mètres de long et qui arbore les photographies des personnalités les plus connues du régime Fujimoriste, donc régime dictatorial qui était en place au cours du conflit péruvien. Donc ce conflit a eu lieu entre 1980 et 2000 et il cristallise finalement les clivages qui étaient à l'œuvre dans la société péruvienne. On avait d'un côté le Sentier Lumineux, donc un mouvement maoïste qui prétendait mettre fin aux inégalités sociales et raciales, et de l'autre côté, l'État qui promouvait un mot d'ordre de préservation de la verticalité du système. Donc ce conflit a eu la dénomination de guerre sale, c'est-à-dire une guerre où tous les coups sont permis, une guerre finalement marquée par la honte. Et voilà, c'est pour ça que cette thématique de réparer la honte m'intéressait particulièrement. Donc je souhaite traiter cette thématique de la honte à partir de deux récits qui rendent compte du vécu du conflit et qui mettent au jour les affects, dont la honte. Donc le récit Pachatik, la Mundo Revuelto de Walter Bingham, on retrouve la honte de l'appartenance sociale et raciale dans un contexte de massacre de la population andine. Et de l'autre côté, le récit Silila de Carlos Thorne, avec donc la honte du viol qui a été perpétré par les soldats des deux camps du conflit. Je souhaite observer comment s'articulent honte et récit. Et donc, ma thèse serait que le récit, en tant que vecteur de différents discours, cristallise mais rend aussi possible une réparation de la honte. Donc, dans un premier temps, il s'agirait de voir d'observer, d'analyser la performativité de la violence verbale dans ces récits, et donc voir comment on passe de l'expression du mépris à la honte vécue. Avec donc, dans un premier temps, cette expérience du mépris, qui est vraiment en lien avec la honte, puisqu'on perçoit une certaine infériorité, une exclusion de la communauté finalement. Avec le cas du cholo. Donc le cholo, donc c'est un terme en espagnol qui cristallise une double discrimination sociale et raciale et qui a été définie par Aníbal Quijano dans Domination culturelle, lo cholo y el conflicto cultural en el Perú. Donc los cholos, c'est un groupe de métis dont les traits physiques étaient majoritairement indiens sous l'influence occidentale. Donc à ce sens premier de la société coloniale, c'est ajouté une dimension péjorative puisqu'on les a associés à la pauvreté, à la délinquance et finalement on les a associés à la barbarie. Ce serait une culture arriérée, primaire, sanguinaire et donc la culture dominante en viendrait à associer toute personne d'origine andine au sentier lumineux, à ses actions violentes et donc à les exclure de la nation. Cette idée d'exclusion est particulièrement visible dans le récit Pachatikra de Walter Lingan où on a un passage particulièrement frappant où un groupe de paysans se rend à la mairie pour réclamer de l'argent promis pour la construction d'une école. Et donc la mairie apparaît là comme une métonymie de la patrie. Il y a une omniprésence des symboles patriotiques, comme on peut le voir dans la citation. La patrie était sur les murs, blasons, cocardes, photos des héros et du président. La patrie tout en couleurs. Et le peuple, les cholos, les Indiens. Non, nous ne semblons pas appartenir à la patrie. Ensuite, à la suite de cette réflexion, donc les paysans sont expulsés de la mairie par le maire en colère et finalement, on peut voir qu'ils sont expulsés de la nation, puisque la mairie apparaît ici comme une métonymie de la nation par tous les symboles patriotiques que j'ai pu mentionner. L'exclusion se fait donc non seulement de la nation, mais aussi de la communauté humaine, qui correspond à ce qui advient finalement avec la honte. On est exclu de la communauté humaine. Et donc cela passe par la violence verbale et symbolique, pour reprendre les termes, les idées de Bourdieu, avec un discours vecteur de stigmates. Donc on a une profonde déshumanisation avec l'omniprésence des insultes propres au discours hégémonique. On retrouve dans Pachatikra de Walter Lingan ces termes de cholo ou indio, de merde ou pouilleux, avec donc une caractérisation raciale associée à la déjection et à la vermine. Et donc cela correspond au concept de basurisation qui a été développé par Rocío Silva Santisteban dans El Factor Asco. Et donc basurisation, on n'a pas vraiment de terme exact puisqu'il s'agit d'un néologisme pour le traduire, mais il s'agirait de la transformation en déchet. Et selon cet auteur, il s'agirait d'une façon d'organiser l'autre comme un élément excédent d'un système symbolique, ici la nation péruvienne, en lui conférant une représentation qui provoque le dégoût. Donc, faire de l'autre un déchet symbolique, c'est l'exclure, l'expulser du corps social. Et donc, on retrouve cette idée de honte, d'être exclu de la communauté. On a également une déshumanisation qui passe par la réification par le viol, avec donc une dépossession du corps de la victime par le discours du violeur. Dans Philly, là, de Carlos Thorne, on a le violeur qui dit « je fais ce que je veux parce que tu es ma prisonnière ». Et ensuite, la narratrice s'exprime de la façon suivante, il fait avec ton corps ce qu'il veut. Donc, elle intériorise pleinement cette forme de domination et cette perte de l'honneur avec l'idée qu'on retrouve dans l'idée de le mot déshonoré. Et c'est donc là une source de honte. Le stigmate est ensuite intériorisé, puisque le corps est vécu comme étant marqué par la honte, par la souillure, ce qui provoque un profond dégoût de soi. On retrouve le terme mancillar en espagnol, qui est présent dans les deux nouvelles pour faire référence au viol. Et qui signifie « tacher, souiller », tant au sens littéral que figuré. Par exemple, dans la citation suivante de Cyrilla, « Là, dans ce ventre qui est le tien, germe l'impudeur et la honte. Tu n'es plus une alouette, Cyrilla, mais une femme souillée par la fatalité éternellement. » On a donc une idée de perte de la virginité, qui est renforcée par l'image de l'alouette, l'oiseau des mystiques, qui renvoie aux religieux, aux virginales. Le récit de soi est donc particulièrement négatif et douloureux, et il apparaît comme un reflet du discours dominant, vecteur de stigmate. On a une profonde soumission au regard d'autrui qui pourrait correspondre au concept d'amour-propre développé par Rousseau dans le discours sur l'inégalité parmi les hommes. Cependant, on va pouvoir voir que, à travers le récit, les personnages narrateurs passent d'objet à sujet du récit, qui viennent prise en main du récit et en même temps, conjointement, un certain renversement de la honte. Dans un premier temps, les personnages narrateurs sont objets d'un discours dominant excluant. Ils sont condamnés au silence, c'est une idée qu'on retrouve particulièrement comme effet de la honte. La domination sociale se double d'une domination culturelle. Comme l'écrit Antonio Cornejo Polar dans Escribir en el aire, il existe au Pérou une hiérarchie linguistique très définie dans laquelle le quechua s'incline face à l'espagnol, l'oralité face à l'écriture et tout cela face à l'autorité de l'académie. On retrouve cette idée de domination linguistique dans Patatigra de Walter Lingan, avec donc un bilinguisme espagnol-quechua, mais un assujettissement du quechua, la langue andine, vis-à-vis de l'espagnol. Les mots quechua sont minoritaires, ils sont signalés par l'italique, ils ne sont jamais relatifs à des affaires importantes. Par exemple, lorsque il y a une demande administrative lors du passage que j'ai déjà mentionné, lorsque les paysans vont voir le maire, les échanges se font en espagnol et non pas en quechua, puisque le quechua n'a pas la même valeur que l'espagnol. On a également l'oralité qui est soumise à l'écriture, puisque ces paysans andins sont analphabètes. On a une infériorité due à l'analphabétisme qui est bien mentionnée par le maire qui dit « Un indien qui ne sait pas lire ne vaut pas un vote, il n'existe même pas ». On a donc vraiment cette réduction au silence de l'indien dans le texte. On a également une certaine passivité discursive liée à la honte, puisque les personnages narrateurs sont objets du récit. Notamment dans le récit Cyrilla de Carlos Thorne, où le récit est marqué par une succession d'instances autoritaires, et que le personnage féminin donc est l'objet d'une infantilisation permanente, puisqu'on se réfère à elle comme jeune fille, fille, jeune femme. Donc son sexe féminin plus son jeune âge qu'elle se trouve subordonnée au discours d'autrui. Cyrilla est aussi l'objet de nombreux impératifs et du discours de son père qui emploie un article défini pour se référer à elle lorsqu'il dit par exemple « Je t'amène la Cyrilla, ma fille, à ton service ». Donc Cyrilla, elle est plus parlée qu'elle ne parle. On a l'impression qu'elle n'est pas légitime à porter son propre récit et il y a une forme d'humilité et d'effacement intériorisé, d'autocensure, ce qui correspondrait à la censure structurelle à laquelle fait référence Bourdieu dans « Langage et pouvoir symbolique ». Cependant, on peut voir qu'il y a un certain renversement de la honte s'opère par la prise en main du récit. Donc, notamment dans le texte « Cyrilla » de Carlos Thorne. On a une appropriation progressive de l'espace de la narration, et donc l'évolution de la prise de parole se fait en parallèle à celle de sa relation à la honte. On a un rôle clé du récit dans le processus d'éhontement. Puisque l'on commence donc tout d'abord au début du texte avec un récit de soi à la deuxième personne du singulier. Par exemple, Cyrilla, ne t'endors pas, regarde la rivière. C'est ainsi que commence le récit. Elle se parle à la deuxième personne du singulier. On a une forme de mise à distance, de dédoublement qui est justement le propre de là où on se regarde de soi sur soi. Ensuite, apparaît un timide récit de soi à la première personne qui vient s'intercaler entre des paragraphes à la deuxième personne. Elle se fait interrompre sans cesse par les voix autoritaires qui s'immiscent dans son récit. Par exemple, elle dit « Je m'appelle Silvia Barahona, je suis de Anko, j'y retourne pour voir mon père, mais enfin tu n'as plus de père. » On voit clairement qu'elle est interrompue dans ce discours à la première personne. Mais on a une affirmation progressive du jeu qui culmine avec une page et demie de récit à la première personne à la fin de la nouvelle. Et donc, on pourrait parler d'une dimension nourricière du récit qui permet au jeu d'accéder à l'autorité d'une certaine façon, à la façon du lait mentionné de la façon suivante, il me fera grandir, moi qui suis tout petit. On pourrait penser qu'elle parle ici du récit qui l'a fait grandir. Et donc, à la fin du récit, Silvia se présente comme une femme, après avoir été traitée au fil du texte comme une mineure. Le récit lui permet donc d'échapper à la honte et de construire son identité par le récit. Et cela correspond justement à ce que Serge Tisseron développe dans La Honte, psychanalyse d'un lien social, lorsqu'il dit qu'il faut toujours donner à la honte valeur d'aspiration à la reconstruction d'une identité originale qui trouve sa place dans la communauté. Donc réintégrer la communauté, c'est réintégrer l'espace du nous, et c'est ce que je vais traiter dans ma dernière partie. Ça j'ai déjà vu, donc il s'agirait de voir comment on guérit la honte par le récit en renouant le lien. Donc tout d'abord il s'agit de resocialiser via le récit pour guérir la honte, et pour cela il s'agit de faire lien avec le lecteur. Donc on fait communauté avec le lecteur par le biais du récit, c'est l'idée que développe dans Los Trabajos de la Memoria à propos du témoignage, mais qu'on peut parfaitement transposer à la lecture lorsqu'elle dit: l'expérience individuelle fait communauté dans l'acte narratif partagé, dans le récit et dans l'écoute. Donc l'écoute pourrait ici être remplacée par la lecture. On retrouve cette idée dans Silvia de Carlos Thorne, où on a un récit donc majoritairement à la deuxième personne du singulier, comme j'ai pu le mentionner. Et donc ça peut être lu à la fois comme si Silvia se parlait à elle-même et comme une sorte d'interpellation du lecteur, avec donc des entités interchangeables et donc l'accès au nous. Il s'agirait finalement de se faire violence par le récit, en adoptant une poétique de la vulnérabilité. Le récit de la honte constitue, comme je l'ai mentionné, une prise de pouvoir, mais dans le même temps une exposition au regard d'autrui qui peut engendrer un redoublement de la honte. José Carlos Agüero, dans Los Rendidos, prône la revendication de la vulnérabilité pour pouvoir se défaire de la honte. Il dit par exemple que la honte requiert d'accepter systématiquement sans alibi, et il explique qu'il faut tout reconnaître, c'est renoncer à l'autoprotection. Donc, j'aimais cette thèse de poétique de la vulnérabilité, donc poétique avec donc un H qui mêlerait poétique et éthique, un art d'écrire et un art de vivre. On a donc un récit complet et sans détour qui impliquerait d'être capable de dire que l'on a été victime, mais aussi auteur de violence, et non pas se raconter des histoires, ce qui serait une forme d'autoprotection. Il s'agirait de se faire violence par le don de soi et de son récit. Et Silvia se présente donc à la fin du récit comme une meurtrière. Dans le paragraphe final, on peut lire les phrases suivantes. « Oui, c'est moi, Silvia Barahona, que l'on appelle la camarade Silvia. Et c'est moi qui ai tué la camarade Jeannette avec une baïonnette que j'ai enfoncée dans son dos. Je sens la pointe de la baïonnette qui touche son sternum, tandis que le sang coule à flot. » On a donc l'assassinat de la camarade Jeannette qui constitue une mise à mort de la dernière autorité. Et donc, il s'agit ici de se faire violence et de se faire justice à la fois. Le récit se fait à la première personne du singulier, car Silvia assume pour la première fois la véritable responsabilité de ses actes. On a une description explicite et précise de la mise à mort et non pas une édulcoration liée à la pudeur. Finalement, on peut voir que le récit de la honte a une forte valeur, une forte dimension thérapeutique. On observe une fracture entre celle que Silvia était et celle qu'elle est devenue suite aux épisodes de violence, mais la ligne de continuité, c'est l'ouvrage thérapeutique. Avant la violence, le personnage avait une aspiration thérapeutique, elle rêvait de devenir infirmière. Puis, on retrouve cette idée de thérapie dans son récit, qui a une valeur cathartique. La honte est évacuée à la façon d'un accouchement, puisque le personnage narre son accouchement à la fin. Je coupe le cordon qui me lie au bébé qui crie, je le mets à côté de moi et je ne me sens plus sale. On a donc une dimension purificatrice de cet accouchement, d'un enfant produit du viol, que l'on pourrait associer donc cette dimension purificatrice au récit. Il serait donc possible de sortir de la honte par le biais du récit, qui permet d'advenir en tant que moi, en même temps qu'il implique la création d'un lien avec l'autre. Les mots finaux de la nouvelle sont donc « Je ne vais pas continuer à tuer Madame Alicia ». On comprend donc que le passé lié à la honte se trouve définitivement derrière le personnage. En conclusion, Guérir la honte suppose donc de sortir des structures de domination et d'exclusion qui sont étroitement liées au discours. Cela suppose une prise de pouvoir par le biais du récit. Le récit, par son caractère thérapeutique, permet au personnage narrateur d'advenir en tant que sujet et de renouer le lien tant avec le lecteur qu'avec la communauté humaine. À la fin de Silila, le personnage narrateur narre son crime. Cela nous mène à interroger la honte vécue par l'auteur de la violence et non plus par la victime. Serge Tisseron, dans La honte, émet la thèse selon laquelle il faudrait considérer que dans le cas des régimes dictatoriaux, la honte pousse au crime tout autant qu'elle retient de l'accomplir. Et donc il explique que l'on prend part à la violence parce que l'on craint d'être marginalisé et raillé si l'on s'y refuse. Les injonctions du régime dictatorial s'immiscent jusque dans les pensées. On adopte sur soi-même le regard d'une sorte d'accusateur public intériorisé, comme il l'écrit. Et ce serait vraiment une thématique que je pourrais étudier dans un autre récit bref qui s'intitule « En el vientre de la noche » de José de Pierola. On a donc le flux des pensées du personnage narrateur qui laisse entrevoir un dédoublement de soi. Le militaire est partagé entre une progressive empathie envers son prisonnier et les injonctions dictatoriales visant à empêcher toute relation avec l'ennemi. Voilà, je vous remercie.